Bonjour à tous et à toutes. En fait, ce matin, je ne savais pas par quel verset commencer, parce que j'ai l'habitude d'introduire les messages par un verset. Et en fait, je me suis posé la question si au dernier moment, je n'allais pas changer de verset, là, en commençant. Alors, j'avais pris deux versets ce matin, mais en fait, je vais vous commencer par ce verset-là. Il y a un verset merveilleux dans la parole de Dieu, qui se trouve en Ésaïe, chapitre 61, verset 3, et qui nous dit simplement cela en l'état. Il nous dit que Dieu souhaite que nous soyons des chaînes de justice, des plantations de l'Éternel qui manifestent sa splendeur. Est-ce que vous imaginez ça ? Dieu souhaite que nous soyons des chaînes de justice, des plantations de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Et en fait, Jésus veut transformer nos vies pour que nous soyons des chaînes de justice. Et il souhaite que nous puissions resplendir de sa gloire. Rien que ça. Alors vous savez, nous sommes dans notre deuxième semaine de notre programme Bâtir sur du solide, qui nous invite à méditer l'enseignement de Jésus. Mais s'il nous invite à méditer l'enseignement de Jésus, c'est justement pour que nous puissions saisir ce que Jésus veut dans nos vies. Et nous avons pu, pour commencer, voir la semaine dernière à quoi ressemble un homme qui a bâti sa vie sur le roc. Jésus dit « je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Pardon. Je vous montrerai à quoi ressemble cet homme, dit Jésus. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Voilà à quoi ressemble un tel homme, dit Jésus, en Luc 6, verset 48. Et la semaine dernière, Éric nous a enseigné sur cette bonne orientation, ce bon sens à donner à notre vie afin d'être un homme avisé. Et cette manière consiste à écouter, à s'examiner et à agir dans notre vie. Et cet enseignement se trouve tout à la fin du sermon sur la montagne. C'est le bon sens à garder à l'esprit tout au long de ces 6 semaines où nous sommes invités à méditer sur l'enseignement de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le début du sermon sur la montagne. Et quel est ce début ? Je vous invite à lire et à ouvrir vos Bibles d'abord, et nous allons lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, du verset 1 à 12. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 12. Et je crois que nous connaissons à peu près tous ce passage. Jésus, voyant ses foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner et il leur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous, de la même manière. Alors ce passage que nous venons de lire se trouve dans l'évangile de Matthieu, et Matthieu, c'est ce collecteur d'impôts de métier qui est devenu un des douze que Jésus appela à le suivre. Matthieu est juif, et dans son évangile, Matthieu a toujours le souci de montrer que Jésus est le roi qui devait venir, le roi promis. C'est lui qui, dès le début de son évangile, dresse le tableau de la généalogie de Jésus, comme il le dit au chapitre 1, verset 20, verset 1, « Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, etc. » Et Matthieu appelle souvent Jésus, fils de David. Il a ce souci de montrer combien Jésus est venu accomplir pleinement les promesses de la parole et les révélations des prophéties. Et son évangile s'organise autour d'axes forts. La naissance de Jésus et son ministère. Le sermon sur la montagne qui reprend l'enseignement de Jésus. Des guérisons, des enseignements de Jésus. Il nous parle de l'envoi des 12 en mission. Il nous rappelle le discours de Jésus sur la fin des temps au mont des Oliviers. Et bien sûr, toute la passion du Christ. Et le sermon sur la montagne, qui reprend l'enseignement de Jésus, est un des axes forts de l'évangile de Matthieu. Le sermon sur la montagne comprend trois chapitres, le chapitre 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Et seul Matthieu nous donne cet enseignement dans la continuité. Et si cet enseignement est donné de manière aussi puissante, c'est aussi pour que nous saisissions dans notre vie ce que Jésus veut pour nous. Le chapitre 5 situe un moment précis de la vie de Jésus. Si vous lisez à partir de la fin du chapitre 4, vous voyez que Jésus est au début de son ministère. Il nous est dit qu'il parcourait toute la Galilée et il enseignait dans les synagogues. Et il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérissait toute maladie et longueur parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui présenta tous ceux qui se portaient mal, atteints de diverses maladies, de divers tourments, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Et de grandes foules le suivirent au-delà de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et au-delà du Jourdain. Jésus accomplit beaucoup de miracles, et les foules sont attirées à la fois par les miracles, bien sûr, mais aussi par l'enseignement de Jésus. Et ici, la foule l'avait suivi de toutes les contrées alentour. Jésus, voyant cette foule, il monta sur une montagne. Jésus s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et les enseigna. Alors même si nous avons l'impression que Jésus s'adresse en priorité à ses disciples, nous voyons que la foule n'est pas loin, et qu'elle a certainement suivi cet enseignement de près. D'ailleurs, quand vous lisez tout le sermon sur la montagne, vous voyez qu'à un moment donné, il est dit qu'après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Jésus est venu pour révéler les principes du royaume de Dieu pour toute personne qui vient à lui. Et Jésus commence son enseignement par ce qu'on appelle communément les béatitudes. Vous voyez ce titre souvent dans vos Bibles. Après avoir annoncé en Galilée, au début de son ministère, la nouvelle du royaume de Dieu, Jésus va présenter dans le début de ce sermon ce qui caractérise celui qui est appelé à hériter de ce royaume. Ce passage est donc à la fois, si je puis dire, une introduction à tout l'enseignement qui suit, et en même temps un formidable portrait dès à présent pour celui qui veut suivre Jésus. C'est un portrait d'ailleurs puissant et déroutant. Et ce portrait montre, je crois, toute la transformation nécessaire dans nos vies afin d'être à l'image de Jésus. Et cette transformation commence dès aujourd'hui, afin d'être à l'image de Jésus et de saisir le vrai bonheur en Dieu. Jésus, nous l'avons lu ce matin d'ailleurs, Jésus affirme en Matthieu 5, verset 13, où quelqu'un l'a dit, il nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on » C'est dès aujourd'hui que nous sommes appelés à être le sel de la terre. C'est pas à la fin de notre vie, c'est pas un jour. C'est aujourd'hui, concrètement, dans notre vie. Jésus veut que nous soyons le sel de la terre. Jésus dit encore un peu plus loin, en Matthieu 5, verset 20, donc toujours dans ce sermon sur la montagne, « Je vous le dis, si votre justice, aujourd'hui, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » C'est aujourd'hui que nous sommes appelés à nous laisser transformer, à recevoir, à saisir les promesses de Dieu pour nos vies. Et Jésus commence donc son enseignement par un appel puissant, déroutant pour nos vies. Alors je ne vais pas aujourd'hui regarder en détail chaque béatitude. Vous êtes invités d'ailleurs cette semaine à méditer sur chacune d'entre elles. Donc je ne voudrais pas parler sur chacune des béatitudes ce matin. Je ne le ferai pas. Je voudrais me concentrer plus précisément sur l'orientation de ce discours et ce que Jésus veut inspirer à ceux qui l'écoutent. Et si je l'aborde ainsi, c'est pour d'ailleurs vous inspirer aussi en méditant sur chacune des béatitudes cette semaine et vous faire considérer comment chacune d'elles nous concerne personnellement. Les béatitudes vont être un socle important pour tout l'enseignement qui suit et nous sommes encouragés dans les semaines qui viennent à saisir justement cet enseignement. Alors ce discours, je l'appellerai plutôt « message proclamé par Jésus » parce que Jésus proclame quelque chose de puissant dans ses paroles. Et cette proclamation a une couleur particulière. Jésus s'adresse aux personnes qui l'écoutent, ni en parabole, ni en image tirée de la vie courante, ni même de manière très claire, textuelle. Non, Jésus s'adresse à ceux qui l'écoutent de manière expressive. Il commence chacune des béatitudes par le mot « heureux » ou bienheureux, pour qualifier des états ou des dispositions ou des aspirations de cœur. Et il énumère toute une série, 8 au total, avec la même formulation. On pourrait dire 9, mais il y en a une à la fin qui est coupée en deux. Si Jésus emploie ce qualificatif sous forme d'adjectif, c'est pour caractériser quelque chose d'important, un bon sens. Parce que Jésus est venu annoncer au monde la bonne orientation pour nos vies. Et Jésus emploie le mot « heureux » en tant qu'adjectif, et en l'employant ainsi, je me suis dit, mais c'est étonnant, parce que peu de fois dans le Nouveau Testament, nous avons ce qualificatif. Mais en tout cas, ce qualificatif n'est pas exceptionnel dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Et on le retrouve notamment dans deux livres que vous connaissez bien, que sont les psaumes et les proverbes. Et si vous lisez les psaumes et les proverbes, vous verrez que le mot « heureux » apparaît une multitude de fois, et souvent en tant qu'adjectif pour qualifier aussi. Et lorsqu'il est employé dans ces livres, il est employé pour marquer une orientation, un choix de vie qui va dans le bon sens. Dans le psaume, chapitre 1, verset 1, il est dit « heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, celui qui a choisi une bonne orientation. » Au psaume 32, verset 2, il est dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Il est qualifié d'heureux parce qu'il a choisi la bonne orientation pour sa vie. Ce mot est souvent utilisé pour marquer l'attitude de l'homme juste selon Dieu. Et s'il y a quelque chose que l'on retrouve souvent dans les psaumes et dans les proverbes, en dehors bien sûr des appels à la délivrance, de la confiance en l'Éternel, de l'assurance du salut, c'est deux orientations. Celui qui est juste, c'est-à-dire celui qui agit selon les voies de l'Éternel, en opposition à celui qui est qualifié souvent de méchant, c'est-à-dire qui marche dans ses propres voies. Et nous avons donc deux orientations. Ceux qui observent la loi de Dieu et ceux qui abandonnent la loi de Dieu. Dans le psaume 106, verset 3, il est dit « Heureux ceux qui observent ta loi, qui pratiquent la justice en tout temps ». Dans le proverbe 28, verset 4, il est dit « Ceux qui abandonnent ta loi, ce sont ceux qui louent le méchant ». L'adjectif « heureux » qualifie souvent celui qui choisit l'obéissance à la loi de Dieu et qui est appelé ainsi « juste » devant Dieu. Bien, je crois qu'il en est de même ici, à quelque part dans ce passage. Si Jésus qualifie d'heureux quelque chose ou une attitude, une orientation, c'est en vue d'une réalité à vivre dans la justice de Dieu pour connaître le vrai bonheur. D'ailleurs, les promesses qui y sont rattachées définissent cette réalité. S'ils sont appelés heureux, c'est à cause de quelque chose. Ici, ils ne sont pas déclarés justes, mais il y a des promesses puissantes pour leur vie. Il y a des promesses puissantes parce que Dieu nous les donne. Ensuite, Jésus qualifie d'heureux des orientations, des aspirations. Et si vous les regardez de plus près, ce sont des choses du cœur, des choses qui sont à l'intérieur de nous. Il qualifie d'heureux les doux, les humbles, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux encore qui souffrent à cause de Christ ou pour la justice. Ces orientations sont des orientations qui sont à l'intérieur de nous. Ce ne sont pas des choses que nous possédons que Jésus veut changer. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, ces orientations se retrouvent aussi souvent dans les psaumes. Si vous lisez les psaumes, vous trouvez aussi qu'il est dit « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde » de la même manière que Jésus l'emploie ici. « Heureux celui qui règle ses actions d'après la justice ». Heureux ceux qui ont pitié des misérables. Et les psaumes déclarent juste ceux qui ont de telles aspirations et qui se comportent ainsi. Il n'est donc pas anormal que Jésus proclame ces mêmes dispositions avec ce même adjectif. Et je dirais même qu'il y a une cohérence dans la puissance du message de la parole de Dieu. Ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, Jésus vient le proclamer aussi aujourd'hui, et il souhaite le faire vivre aujourd'hui. C'est l'orientation du cœur que Dieu souhaite pour ceux qui marchent selon la loi de Dieu. Et Jésus n'est pas venu faire autre chose aussi que de faire vivre cette réalité de la loi de Dieu dans nos vies. Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver et pour faire vivre la réalité de l'amour de Dieu dans nos vies. Il nous est dit en Matthieu 5, au verset 17, donc un peu plus loin, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Vous connaissez ces paroles. « Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Il est venu pour faire vivre cette réalité en nous. Et je crois que Jésus souhaite nous faire considérer dans ce passage ce qui est juste, et le faire vivre en nous. Alors, mais ces orientations, être humble, avoir soif de justice, être artisan de paix, toutes ces bonnes choses que Jésus qualifie d'heureux, est-ce que c'est des occasions dans notre vie? Est-ce que nous avons des occasions d'être miséricordieux? Est-ce que Jésus nous invite à avoir des occasions à saisir pour être des artisans de paix? Je ne crois pas. Bien sûr, ça en fait partie. Mais je crois qu'ici, Jésus veut que nous le recherchions, veut nous façonner complètement à ces orientations-là. Jésus veut que nous agissions ainsi, et pour cela, il veut nous transformer de l'intérieur pour que ces états deviennent notre caractère. Dans le proverbe 28, au verset 14, il est dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte ». Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Dans le psaume 119, il est dit « Heureux ceux qui gardent ces préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur ». Je crois qu'il y a dans la parole de Dieu cette invitation à considérer, à rechercher, à se laisser façonner, à se laisser transformer pour être à l'image de Dieu. c'est plus qu'une occasion à saisir. C'est une transformation, c'est une aspiration à se laisser transformer par Christ. Celui qui est continuellement dans la crainte, ce n'est pas celui qui est continuellement dans le malheur. C'est celui qui recherche constamment la volonté de Dieu, qui s'y soumet, qui travaille, qui demande au Seigneur de le préserver, qui lui demande de se laisser transformer pour vraiment pouvoir préserver sa vie. Celui qui endurcit son cœur, c'est celui qui ne veut pas entendre. C'est celui qui veut faire à sa manière. C'est celui qui ne veut pas se laisser transformer. Et celui-ci, il nous est dit, il tombe dans le malheur. Au regard des proverbes et des psaumes, nous voyons que cet adjectif « heureux » qualifie souvent non pas une orientation instantanée, je dirais, un fait à accomplir, mais une aspiration, une orientation du cœur et un travail, une recherche nécessaire pour être selon la volonté de Dieu. Eh bien, je crois qu'il y en est de même aussi dans les béatitudes. Jésus proclame des choses qui nous paraissent complètement insurmontables. Et si nous les prenons en l'état comme ça, nous disons, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Jésus déclare heureux les miséricordieux, mais je suis loin d'être miséricordieux. Jésus déclare heureux celui qui a soif et faim de justice, mais est-ce que j'ai moi aussi faim et soif de justice ? Jésus déclare heureux ceux qui ont le cœur pur, mais est-ce que j'ai le cœur pur ? Jésus souhaite réaliser cette transformation dans nos vies dès à présent. C'est une orientation active pour nos vies que Jésus souhaite pour le disciple. Et c'est vrai qu'en le lisant comme ça, c'est troublant. Mais en considérant ces états, si je les lis un derrière l'autre, elles sont une orientation formidable. Jésus nous dit « Heureux celui qui est humble, celui qui est doux, celui qui pleure à cause de quelque chose, celui qui a soif et faim de justice, celui qui est compatissant, qui est miséricordieux, qui est bienveillant. Heureux celui qui a le cœur pur, heureux celui qui est artisan de paix, heureux celui qui souffre pour la justice ou à cause de Christ. » Et quand vous les regardez comme ça, vous voyez que c'est des caractères que le chrétien est appelé à saisir. Tous les évangiles et les lettres qui suivent nous invitent à orienter nos vies dans ce sens-là. Et Jésus nous donne ces caractères ici. Et quand nous les lisons, ils ressemblent, ces caractères, fortement au caractère de Jésus. Qui était plus humble que Christ ? Qui n'a pas pleuré comme Christ ? Christ est l'exemple même de la douceur et de l'humilité. Il est l'exemple même de celui qui a porté la justice. Jésus-Christ est appelé le juste. Il est l'exemple même de la miséricorde, de la bienveillance. Il est celui qui a le cœur pur. Il est l'exemple même de la paix. Et il est celui qui a souffert pour nous. Nous avons dans les béatitudes aussi l'exemple même de la nature de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous fait considérer ses états, et ses états sont la nature même de Jésus. Et si je considère alors que Jésus veut orienter mon cœur pour le former à son caractère, je crois qu'il y a ici une formidable mise en marche à saisir dans le discours puissant de Jésus. Être à l'image de Jésus, c'est la volonté de Dieu. Paul dit en Romains 8, au verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » C'est la volonté de Dieu pour celui qui croit. Et je crois que ce discours est aussi un formidable appel à changer, à orienter notre vie, bien sûr, par l'Esprit de Dieu, pour être transformé à l'image de Jésus et vivre une vie qualifié de vrai bonheur. Le vrai bonheur n'est pas dans la possession. Nous pouvons, et vous le savez, posséder tout ce que nous voulons, mais nous ne serons pas heureux pour autant. La vraie possession, elle est dans la transformation du cœur. Là, Jésus-Christ met dans nos vies des biens indescriptibles. Nous pouvons tout avoir et être dans la plus grande détresse. Mais si nous avons ces caractères, alors nous avons la bonne orientation pour nos vies. S'il y a une bonne orientation, comme le dit Jésus ici, c'est qu'il y a des promesses de Dieu. Le quart qui suit chaque heureux est une promesse de Dieu pour celui qui recherche ses caractères, pour celui qui oriente sa vie selon Dieu. Celui qui laisse agir Dieu dans sa vie par son esprit, pour être à l'image de Jésus, ce sont des bénédictions qui fait dire à Jésus qu'ils sont heureux. Et si on les lit un derrière l'autre, nous voyons ces bénédictions puissantes. Ils seront consolés, ils seront rassasiés, ils obtiendront miséricorde, ils seront appelés fils de Dieu, ils verront Dieu, ils hériteront la terre. Le royaume de Dieu est à eux. Nous avons ici des promesses à présent et des promesses à venir. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu souhaite agir par son Saint-Esprit pour celui qui regarde à Jésus, qui l'écoute, pour que cette réalité soit dès aujourd'hui dans nos vies. Par deux fois, Jésus dit dans ses béatitudes, au début et à la fin, le royaume de Dieu est à eux. Par deux fois. Et je crois qu'ici, il y a une importance dans ce passage sur cette réalité. Jésus veut que nous recevions ce royaume de Dieu. Il veut que nous le saisissions. Et il veut faire de nous, pour cela, ce que certains qualifient de citoyens du royaume de Dieu. Cette mise en marche est pour que nous recevions le royaume, qu'il soit à nous et que nous puissions y entrer. Cette orientation que Jésus donne ici avec puissance dans ce discours et qu'il qualifie d'heureux est à l'opposé de ce que nous considérons dans notre vie. Combien dirait heureux dans la vie de tous les jours quelqu'un qui est pauvre en esprit? Qui qualifierait d'heureux dans la vie quelqu'un qui est miséricordieux, qui a soif de justice, qui a le cœur pur? Si vous dites ça à quelqu'un dans la rue, il dira « Mais non, pour moi, il n'est pas heureux. Il est tout au mieux fou, mais pas heureux. » Quelqu'un d'heureux dans la vie, c'est quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est rassasié de biens, c'est quelqu'un qui possède, c'est quelqu'un qui est une star, c'est quelqu'un qui est grand, qui est beau, qui est puissant. Voilà quelqu'un d'heureux. Mais heureux selon Jésus, selon Dieu, ce n'est pas du tout la même chose. Le vrai bonheur n'est pas dans ce que nous possédons. Il n'est pas dans les orientations du monde. Il est dans les orientations que Dieu souhaite pour nos vies. Et ces orientations-là sont une folie pour l'humanité. Pourtant, le vrai bonheur est bien là. Le vrai bonheur est bien là, et si vous y regardez d'un peu plus près, vous voyez que c'est une réalité. Parce que celui qui laisse agir Dieu dans sa vie, c'est celui qui cède d'abord tout ce qui lui tient à cœur. C'est celui qui cède son orgueil, qui cède ses certitudes, qui cède ses possessions. Il cède tout à Dieu parce qu'il les voit comme impropres. En cédant ainsi ces choses que nous croyons importantes, eh bien Dieu agit dans nos vies, il nous façonne pour mettre à la place ce qui est important. Et ce qui est important, c'est ce que Jésus dit ici dans les Béatitudes. Et quand Dieu vient semer ça en nous, ces choses importantes, lorsqu'il vient travailler nos cœurs et qu'il vient mettre ses réalités dans nos vies pour nous façonner à l'image de Christ, eh bien notre vie devient tout autre. Notre vie n'est plus dominée par l'orgueil. Notre vie n'est plus dominée par les choses qui nous semblent importantes du monde. Notre vie n'est plus dominée par des choses qui sont futiles, mais par des choses qui ont un vrai sens. Et ces choses qui ont un vrai sens, c'est justement ces choses-là que le monde n'a pas et que le monde a besoin. Le monde n'est pas rempli de miséricorde. Le monde n'est pas rempli de douceur. Le monde n'a pas soif de justice. Le monde n'est pas prêt à souffrir à cause de Christ. Le monde n'est pas un monde artisan de paix. Pourtant, Jésus veut venir semer cela en vous pour que vous puissiez réaliser à votre tour cette réalité dans le monde. Et c'est là que vous pouvez devenir le sel de la terre et la lumière du monde. À partir du moment où Jésus vient semer ça dans vos vies, alors vous portez du vrai fruit. Alors vous êtes appelé le sel de la terre, vous avez de la saveur. Vous êtes dans la vérité de Dieu. Et je crois que nous sommes appelés à exprimer dans notre vie ces réalités de l'amour de Dieu. Le monde ne nous connaît pas, mais je peux vous dire que le monde nous reconnaîtra par ces attributs-là. Alors ma prière ce matin, c'est que nous puissions, tout au long de ce parcours, saisir ces promesses de Jésus dans nos vies. Que nous puissions saisir ce qu'il veut faire dans nos vies. Et ce matin, je voudrais terminer par simplement que nous passions un petit moment dans la méditation, quelques minutes, et que nous regardions à chacun de ces états, à chacun de ces caractères. L'humilité, la douceur, avoir soif et faim de justice, rechercher la paix, la miséricorde. Que nous puissions mettre cela devant le Seigneur, tout simplement. Avant que cette semaine, nous soyons invités à méditer sur chacune de ces béatitudes. Alors passons un petit moment dans le silence, si vous voulez. Seigneur, ce matin, je voudrais dire publiquement, Seigneur, que lorsque j'ai lu chacune de ces béatitudes, Seigneur, j'ai vu combien j'étais éloigné de chacune d'elles. Seigneur Jésus, je ne suis pas un homme doux. Je ne suis pas un homme, Seigneur, qui a faim et soif de justice. Je ne suis pas quelqu'un de miséricordieux, Seigneur. Je ne suis pas quelqu'un qui est prêt à souffrir pour toi. Je ne suis pas quelqu'un, Seigneur, bien souvent qui me considère pauvre en esprit. Je ne suis pas quelqu'un, Seigneur, où je puis dire je suis un artisan de paix. Je ne suis pas encore moins quelqu'un, Seigneur, qui a un cœur pur. Mais Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu es venu nous proclamer une réalité, quelque chose que tu veux accomplir dans nos vies et dans ma vie, Seigneur. Et tu qualifies cette réalité de heureux, parce que c'est le bon sens que tu veux pour nos vies. Et si c'est le bon sens que tu veux pour nos vies, pour ma vie, Seigneur, même si je suis bien loin de cela, eh bien, je sais que tu es tout puissant pour l'accomplir. Tu es tout puissant, Seigneur Jésus, pour faire régner en moi cette réalité. Alors ce matin, Seigneur Jésus, ma prière, c'est que je puisse céder devant toi ce que j'ai à céder, Seigneur. Que je puisse abandonner devant toi ce que je dois abandonner. Afin que tu puisses réaliser dans ma vie ce que tu veux de bon pour moi. Ce que tu veux de bon pour nous. Seigneur Jésus, ma prière ce matin, c'est que tu nous façonnes chacun et chacune selon ton cœur, afin de vivre vraiment ton amour, Seigneur, afin de vivre vraiment la réalité de ton amour, afin d'être le sel, la lumière, Seigneur, que tu veux que nous soyons. Mais cela, je ne peux pas le faire moi-même, Seigneur. Je ne peux pas y arriver par moi-même. Toi seul, tu peux y arriver dans ma vie par ton Saint-Esprit. Alors Seigneur, je t'implore ce matin, je t'implore et je te demande que tu réalises cela dans ma vie par ton Saint-Esprit. Je te demande que tu nous assistes, que tu te révèles à nous, Seigneur, afin que nous le vivions vraiment dans nos vies. Seigneur Jésus, que nous soyons détachés de tout ce qui représente un frein et que nous puissions saisir, Seigneur, ces fruits merveilleux. Seigneur Jésus, je te demande que cela soit l'aspiration de nos vies et que nous puissions vivre cette réalité d'être heureux en toi à cause de cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui as accompli toutes choses et c'est toi qui réaliseras cela dans nos vies par ton Saint-Esprit. Amen.